Bonjour tout le monde. Ça va bien? Je vous dirais ce matin que je commence le message un petit peu avec un pincement de cœur. Parce que je ne sais pas si je pense que je l'ai partagé, à certaines personnes, mais je prends ma retraite dans 3 semaines. Après 32 ans à Post-Canada. Et je commence comme ancien en formation à l'église de Buckingham à partir du 2 janvier. Donc, depuis, je dirais, 2 ans à peu près, je viens ici une fois par mois. Mais je ne vais plus venir une fois par mois parce que je vais être plus impliqué à l'assemblée là-bas. Donc, Dieu voulait, je vais venir pour remplacer Denis peut-être 5 ou 6 fois durant l'année. Fait que, un petit peu un pincement de cœur ce matin, parce que je veux dire que moi, mon épouse, on vous aime, puis on a appris à vous apprécier, à vous connaître. Ça veut dire qu'on ne va pas revenir, mais on va revenir moins souvent. Fait que c'est sûr que c'est ça. Un petit peu un pincement de cœur ce matin, mais faut aller où Dieu nous appelle. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on veut dire qu'on vous aime, puis on ne vous oublie pas. Puis on est toujours content de venir vous voir et vous revoir. Donc, ce matin, on continue la série qu'on a commencé il y a, 4 mois maintenant. Et ce matin, le titre du message, c'est « Solus Christus », qui veut dire en latin « par Christ seulement ». Par Christ seulement. On a déjà vu, dans les premiers messages, on a eu l'introduction, ensuite on a vu là, le premier message « Sola Scriptura ». Et le message nous disait que la parole de Dieu est l'autorité finale et suprême dans l'Église. Ensuite, on a vu Sola Fide, qui nous dit que l'homme peut être trouvé justifié seulement et seulement par la foi en Christ. Ensuite, on a vu, le mois passé, Sola Gratia, par la grâce seulement. Si on est assis dans l'Église ce matin ici, c'est seulement à cause de la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés dans sa grâce, chacun de nous. Parce qu'on était aveugles, on était sourds, on ne pouvait pas voir Dieu à moins que Dieu nous appelle. Et ce matin, je dirais, on voit la colonne dans notre bâtiment. Solus Christus. La pierre angulaire, je dirais, de la réforme, et la pierre angulaire de l'Église. C'est Christ. Seulement. Si on prend l'Église et on enlève Christ, qu'est-ce qui reste? Il reste la religion, dans le fond. Prenez n'importe quelle religion et enlevez Christ, c'est une religion. Et c'est pour ça que Christ est tellement important. Il est la pierre angulaire dans l'Église. Puis je vous demandais ce matin, est-ce que la mort de Christ seule en sacrifice sur la croix est suffisant pour sauver vos âmes? Oui, absolument. Une autre question. Est-ce que quelqu'un d'autre que Christ ou quelque chose d'autre que la croix peut nous sauver? Non. C'est clair, hein? Tournez avec moi dans Actes 4, 12. On va voir ce que l'apôtre Paul... Pas l'apôtre Paul, excusez, Luc. Actes 4, 12. Le début de l'Église... Regardez ce que Luc nous dit dans Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc, ce que Luc dit, la seule manière d'être sauvé, la seule source de salut, c'est Christ et Christ et seulement. Et c'est pour ça que les réformateurs on parlait de solus Christus, Christ seulement. Voyez-vous, la Bible est claire. La Bible est claire. La seule manière d'être sauvé, c'est à travers le Christ. Mais pourtant, mon ancienne religion enseigne le contraire. Et pourquoi Christ est si important? Parce que Christ est unique. Il n'y a personne comme Christ. Et ce matin, j'aimerais vous démontrer, en vous donnant deux raisons. Pourquoi Christ seulement? La première raison, c'est à cause de l'exclusivité de son identité. Christ seulement, parce qu'il n'y a personne qui est comme Christ. Et la deuxième raison, c'est à cause de la suffisance de son œuvre, à cause de ce que Christ a fait. On va voir ce matin que ce que Christ a fait, personne d'autre n'aurait pu le faire. Et c'est pour ça que les réformateurs ont dit, par Christ seulement, à cause de qui Christ est et à cause de qui ce que Christ a fait. Et j'espère ce matin que vous allez repartir étant convaincu que c'est par Christ et par Christ seulement. Que vous allez être capable d'adorer le Seigneur en reconnaissant sa supériorité, et je dirais même la suprématie de Christ au-dessus de toute chose et de tout homme. Alors, on a lu tantôt, acte 14, il n'y a de salut à aucun autre nom par lequel vous devriez être sauvé. Jean 14, 6, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc c'est clair, c'est seulement et seulement par Christ. Et vous allez peut-être me dire, ouais, mais c'est exclusif ça. Oui, c'est exclusif. Le salut est exclusif. Il n'y a pas de zone grise dans le salut. Dieu est clair. C'est par Christ et rien d'autre. C'est clair comme l'eau de roche. Et ça peut être choquant pour notre monde. De dire, ben voyons donc. Vous pensez que vous avez la vérité? Ben c'est ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que c'est par Christ et par rien d'autre. Donc si vous avez de la misère avec ça, on me dirait en anglais, don't shoot the messenger. C'est pas mon message. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, aucun homme n'a été, n'est et ne sera comme Christ. Et à cause de ce qu'il a fait et à cause de ce qu'il est. J'aimerais regarder le premier point, l'exclusivité dans son identité. Et parce qu'on parle de la réforme, j'aimerais commencer en disant que l'Église catholique n'a aucun problème avec l'identité de Christ. Quand il y a eu la réforme, les réformateurs et l'Église catholique étaient d'accord pour dire que Christ est Dieu. Christ est 100% homme et 100% Dieu en même temps. Christ est une des trois personnes de la Trinité. L'Église catholique n'a aucun problème avec ça. C'est clair. Mais il faut quand même s'arrêter et comprendre pourquoi Christ est si spécial dans son identité. Vous allez comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi que Christ est si spécial, il faut commencer au début de la Bible. J'aimerais ça que vous tourniez avec moi dans Genèse 1. Pour vous démontrer que Christ est le seul. Christ seulement. On lit dans Genèse 1 que Dieu crée les cieux, la terre, tout ce qui nous entoure dans 6 jours. De 24 heures. Et dans Genèse 1, 27 et 28, Dieu dit ceci. Puis il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettisez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, c'est tous les animaux qui se meurent sur la terre. Donc, on voit que Dieu dit, on va créer l'homme à notre image, et Dieu dit, vous allez régner sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe dans Genèse 2? La chute. Et là, on voit que Dieu fait une promesse à l'homme, dans Genèse 3, 15. Restez dans Genèse 3, et regardez la promesse que Dieu va faire au peuple. Pour Adam et Ève. Il dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écraserait le talon et tu lui blesseras. Celle-ci t'écraserait la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu dit oui, il y a eu la chute, mais un jour, un homme de ta postérité va venir libérer l'homme du péché. Donc, ce que Dieu dit, c'est que le libérateur, le Messie, va être un homme, un descendant de Adam et Ève. D'accord? C'est ce qu'il leur dit. Un de vos descendants va venir écraser la tête de Satan. En plus, c'est clair aussi que le Messie doit être un descendant de David. Quand on lit à travers, c'est clair que le Messie doit être un descendant de David. Donc, le Messie doit être un descendant d'Adam et un descendant de David. Donc, le Messie doit être quoi? Un homme. C'est clair. Jésus n'a pas de problème avec ça. Mais aussi, la Bible nous dit que le Sauveur va être Dieu lui-même. Dieu viendra lui-même sauver son peuple. Isaïe 40, 1 à 5 nous dit ceci. Consolez, consolez mon peuple, dites, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son équité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Donc, dites à Israël que ses péchés ont été pardonnés. Mais regardez ce qu'il dit. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ézéchiel 34, 11 et 12. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où ils étaient dispersés. Donc, est-ce que le Messie doit être un homme, comme promis dans Genèse 3, ou devrait être Dieu, comme dans Isaïe 40? Les deux. Il faut que le Messie soit en même temps un homme et Dieu. Et c'est pour ça que Christ est si important. Parce que Christ est le seul qui est à la fois homme et Dieu. C'est ce qui fait toute la différence. Parce que le Messie doit être à la fois 100% homme et 100% Dieu. Et c'est ça le miracle de l'incarnation, ce qu'on va, on va fêter ensemble le 25. C'est l'incarnation. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais l'incarnation, c'est vraiment un miracle. Imaginez-vous le Dieu de l'univers qui a tout créé, qui dit qu'il tient l'univers dans sa main, descend et devient un homme. Essayez de vous imaginer ça deux minutes, là. Et je vous ai partagé il y a un bout de temps une image qui nous montre un petit peu l'incarnation. Et je ne sais pas si vous en rappelez. C'est comme si on prenait le soleil qui brûle à des milliards de degrés Celsius et qu'on le mettait dans un grain de sable. Ça fait-tu du sens? Imaginez le sable, là. Okay. Il y a une puissance atomique. Il brûle à chaque seconde 4 milliards de tonnes de masse. C'est équivalent à 1 million d'éléphants à chaque seconde. Et on dit que le soleil a assez de masse pour brûler pendant 5 milliards d'années. Prenez ce soleil-là et mettez-le dans un grain de sable. Est-ce que vous imaginez la force qu'il y aurait dans ce grain de sable-là? Mais c'est ça l'incarnation. C'est une image de l'incarnation. Le Dieu de l'univers, qui a une force absolument incroyable, qui appartient à toute chose, qui a tout, on le prend, on le met dans un corps humain. Imaginez. C'est vraiment un miracle. À Noël, rappelez-vous ça. Le Dieu de l'univers a descendu dans un corps humain. C'est un miracle. Donc, Christ est le seul qui est à la fois représentant les hommes et Dieu en même temps. Tournons avec moi dans Jean 1, 1 à 3. Jean 1, 3 nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, ce que l'auteur nous dit, c'est que la parole de Dieu était Dieu. D'accord? Regardez ce qu'il nous dit au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce qu'on voit que Dieu prend la forme d'un homme? Jérémie 23, 5 et 6 nous dit la même chose. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe, donc un descendant de David. Et il règnera en roi et prosternera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et son nom. Et en son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Le descendant de David s'appelle l'Éternel, notre justice. Rappelez-vous quand les anges sont venus voir les bergers, comment ils ont appelé Jésus? Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Et c'est pour ça que pour les réformateurs, Solus Christus était tellement important. Les réformateurs ont compris que c'était seulement par Christ. Pourquoi c'était seulement par Christ? Parce qu'il n'y a personne comme Christ. Christ est le seul qui est Dieu fait homme. Le seul qui a le pouvoir de sauver nos âmes. Comme le dit le pasteur Stephen Lawson, le seul qui peut te sauver de la colère de Dieu à venir, c'est Dieu lui-même. Le seul qui peut te sauver de la colère, c'est Dieu lui-même. Seul Dieu peut pardonner tes péchés en payant lui-même ta dette. Et je l'ai dit tantôt, l'Église catholique n'a pas de problème avec le fait que Christ est homme et Dieu. Donc, pourquoi prendre du temps pour nous expliquer ça? Notre monde a la misère avec ça. L'Église n'a pas de misère avec ça, mais notre monde a la misère avec ça. Aller dans la rue et demander aux gens « Qui est Jésus? » Comme quand Jésus a demandé aux disciples hein, « Qui dit-on que je suis? » « Oh, un prophète, un faiseur de miracles, Élie, Jean. » Et Pierre a dit « Non, tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Si vous allez dans les rues aujourd'hui et on vous demande à qui est Jésus, on lui dit « Jésus, c'est un homme ». On va dire « Ben oui, pas de problème, Jésus, c'est un homme, tout le monde croit ça. » Et on vit en l'an 2017 après Jésus-Christ. Mais dites aux gens, par exemple, demandez aux gens « Qui est Jésus ?» Ils vont vous dire « Qui ?» C'est un bon gars, un exemple, un faiseur de miracles. Mais dites-leur que Jésus est Dieu. Je suis pas sûr que la plupart des gens vont vous croire. Parce que si les gens croyaient que Jésus est Dieu, là, ils obéiraient au Seigneur Jésus. Ils se plieraient à son autorité. Et c'est pour ça que je vais prendre une couple de minutes pour vous démontrer, par la parole de Dieu, par sola scriptura, que Jésus est vraiment Dieu. La Bible nous a dit tantôt, hein, ça doit être un homme, ça doit être Dieu, mais j'aimerais vous démontrer pourquoi que sola Christus est tellement important, que Christ est vraiment Dieu fait chair. J'aimerais vous donner 5 raisons. La première raison, le témoignage des évangiles. Jean 1 nous l'a dit, hein? La parole a été faite chair. Regardez ce que Jean 20, 31 nous dit. Ces choses, la parole de Dieu a été écrite afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie. Donc, la parole de Dieu, le témoignage des évangiles nous disent que Christ est Dieu. Une autre raison, son autorité. Avez-vous déjà lu le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7? Comment Jésus parle avec autorité? Combien de fois il dit aux gens, aux pharisiens, vous avez entendu dire, mais moi, je vous dis. Jésus parlait avec autorité. Et même à la fin de Matthieu 7 et 28, on dit, les gens étaient frappés de sa doctrine parce qu'il enseignait avec autorité. Christ avait l'autorité de Dieu parce qu'il est Dieu. La deuxième manière que Christ démontre son autorité, c'est par la nature. Jésus pouvait marcher sur l'eau et dire à une tempête, « Hey, calme-toi! » Qu'est-ce qui se passe? La tempête arrête. Psaume 65, 7 nous dit ceci. « Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots. » Le seul qui peut faire ça, c'est Dieu. Et Christ l'a fait. En plus, Christ montre son autorité par le pardon des péchés. Rappelez-vous le paralytique. Alors, on le descend par un toit, on l'amène devant Jésus. Regardez ce que Jésus lui dit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme peut-il dire cela? » Et blasphème. « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Exactement. Christ avait l'autorité de pardonner les péchés parce que Christ est Dieu. La troisième chose qui nous démontre clairement que Christ est Dieu, c'est comment il appelle Dieu lui-même. Christ appelle son Père « Papa ». Et ça nous démontre l'intimité que Jésus avait, que personne avant lui n'avait eu. Personne. C'était un affront d'appeler Yahweh « Papa » au temps de Jésus. C'est un affront. Parce qu'on ne pouvait pas avoir cette intimité-là avec Dieu. Voyons, il est Dieu. Tu ne peux pas être Dieu, papa. Christ pouvait, parce qu'il était son père. Il est le Fils de Dieu. Joachim Jeremiah dit ceci. Il n'y a aucune analogie dans la littérature contemporaine des prières juives où on fait Dieu et on s'adresse à Dieu comme Abba, papa. Ça n'existait pas. Et encore aujourd'hui, dans la littérature juive, ça n'existe pas. Personne n'a le droit d'appeler Dieu papa. Christ avait le droit, parce qu'il était fils de Dieu. Et on a le droit, parce qu'on est des enfants de Dieu. Christ a parlé ouvertement de l'intimité et de la familiarité qu'il avait avec son père. Tournez avec moi dans Matthieu 6. Verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père, Papa, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 11, 25 et 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Papa, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Christ démontre sa divinité en appelant Dieu, Papa. Une autre chose, le nom que Jésus utilisait. Jésus utilisait le nom « Je suis ». Et rappelez-vous dans l'Ancien Testament, hein, quand Moïse allait délivrer son peuple, Moïse a dit, le peuple va me demander, « Mais c'est quoi ton nom? » Et Dieu a dit à Moïse, « Mon nom est « Je suis celui qui suis ».» Je suis. Un nom unique et personnel qui démontre un Dieu qui existe par lui-même, qui est éternel et qui sait tout. Et pourtant, Jésus a utilisé le nom « Je suis » à profusion. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la vigne. Jésus a dit ouvertement, « Je suis ». Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. La dernière raison, l'adoration qu'on a portée à Jésus. Et pas seulement les disciples, même les démons ont adoré Jésus. Imaginez, même les démons ont adoré Jésus. Luc 8, 28, tournez avec moi, s'il vous plaît, pour vous démontrer par la parole de Dieu. Jésus débarque à Gérasa. Et là, il y a un homme qui est dans les sépulcres qui vient vers Jésus. Regardez ce qu'il dit. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » C'est qui parle?
C'est le démon.
Le démon. Le démon tombe au pied de Jésus et dit, « S'il vous plaît, fils de Dieu, ne me tourmente pas. » Même les démons ont adoré Christ. Ils l'ont reconnu comme étant Dieu. Imaginez. C'est pour ça que Christ est tellement unique. Christ n'est pas un homme comme tous les hommes. Christ est le seul homme qui est à la fois homme et Dieu. Et c'est pour ça que les réformateurs ont voulu dire Solus Christus. Par Christ seulement, il n'y a aucun autre moyen qu'on peut être sauvé. Christ est suprême au-dessus de tout. Et la seule manière qu'on peut être sauvé, c'est à travers de Christ et de rien d'autre, et de personne d'autre. Mais j'aimerais vous parler aussi de où l'Église catholique a fait fausse route. C'est dans la suffisance de l'œuvre de Christ. C'est là qu'ils se sont vraiment trompés. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans le dogme catholique, Christ enlève seulement le péché originel. C'est la seule chose qu'il enlève. Lors de notre baptême, quand on se fait baptiser comme bébé, la justice de Christ est transférée sur nous et nos péchés sont pardonnés. Mais on a un problème. On continue à pécher. Donc on fait quoi? On fait quoi?
Des bonnes œuvres.
Exactement. Ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin de la grâce infusée à travers les œuvres et à travers les 7 sacrements de l'Église. Voilà comment. Donc, on est sauvé à travers de la confirmation, la communion, la messe, la réconciliation, l'onction des malades. Hein, si tu meurs, tu n'as pas eu l'onction des malades, tu es fait à l'os. Le mariage et le sacerdoce. Les 7 sacrements de l'Église catholique. Et de cette manière-là, la grâce est infusée en nous et on coopère avec Dieu pour notre salut. On travaille ensemble. Pourtant, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et parce que l'Église catholique a le seul à avoir le pouvoir de prodiguer les 7 sacrements, elle peut se dire, hors de l'Église catholique,
point de salut.
On est les seuls qui peuvent les donner, les sacrements. Donc, si tu ne viens pas chez nous, tu n'auras pas de salut. Pourtant, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est prendre l'œuvre de Christ et minimiser et dire, Christ, c'est passé. Ça prend plus que Christ. Et c'est pour ça que les réformateurs ont dit, solus, Christus, Christ seulement, Christ est assez. On n'a pas besoin de rien d'autre, parce que Christ est Dieu, et Christ est assez, ce qu'il a fait est assez pour racheter l'homme de ses péchés. Voyez-vous, Christ a institué deux sacrements qu'on pratique dans l'Église. Le baptême et le repas du Seigneur. Et ces deux choses-là ne sauvent personne. Il n'y a personne qui est sauvé pour avoir été baptisé ou pour avoir participé au repas du Seigneur. Personne. La seule chose que ça fait, c'est que ça, c'est une démonstration de ce que Christ a fait dans nos vies. C'est une démonstration de la grâce. Quand on se fait baptiser, c'est une démonstration qu'on est mort avec Christ et qu'on est ressuscité en Christ. Mais ça ne nous sauve pas. C'est seulement là pour démontrer d'une manière, une image pour démontrer la grâce de Christ dans nos vies. Mais ça ne sauve absolument personne. Donc, si on résume, pour l'Église catholique, c'est Jésus, plus les sacrements, plus Marie, plus les saints, plus les œuvres, plus les indulgences, plus fabuler des lampions, plus prier les saints, plus, égale le salut. La formule mathématique des réformateurs est très simple. Je vous l'ai déjà dit. Jésus plus à rien égale le salut. Solus Christus. Christ est suffisant. On n'a pas besoin de rien de plus que Christ. À rien. Acte 4:12. C'est seulement et seulement par Christ. Et c'est pour ça que les réformateurs ont fait voler haut et fort post tenebra lux. Que quelqu'un qui s'en rappelle ce que ça veut dire en latin, en français? Après les ténèbres, la lumière. L'Église a été dans les ténèbres pendant 1000 ans, croyant que c'était les œuvres, que c'était les sacrements qui étaient pour les sauver. Et les réformateurs ont dit non. Le seul qui peut nous sauver, c'est Christ. Et finalement, après 1000 ans d'être pris dans les ténèbres, on est libéré et on a la vérité. C'est tout un privilège qu'on a, ce qui s'est passé il y a 500 ans. Arrêtez-vous et pensez que s'il y a 500 ans, des hommes, Dieu n'avait pas suscité des hommes pour sortir ces doctrines-là, que c'est par la foi seulement, par Christ seulement, sans les œuvres, à travers la parole de Dieu, on n'aurait pas ces vérités-là aujourd'hui. On est béni de vivre dans les journées qu'on vit, les heures, les temps qu'on vit. Et vous pouvez me dire, oui, c'est bien beau, Daniel, tu dis que l'œuvre de Christ est suffisante. Mais pourquoi? Si quelqu'un vous pose la question, tu dis, OK, Jésus, c'est assez. Mais pourquoi c'est assez? Mais j'aimerais vous démontrer pourquoi que l'œuvre de Christ est suffisante. Et vous pouvez, avec confiance, dire à n'importe quel temps que Christ est Dieu. Et que ce que Christ a fait est assez. Vous n'avez pas besoin de rien d'autre. On n'a rien à rajouter. C'est ça que je vais vous démontrer ce matin. J'aimerais qu'on tourne dans nos Bibles, dans Hébreux 10. Hébreux 10. La toute suffisance de l'œuvre de Christ. La première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est le mot « une fois pour toutes ». Regardez au verset 10. 10:10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 14. C'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 7:27. Juste avant. Ça parle de Christ qui n'a pas besoin, comme les autres souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Car celui-ci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. 9:12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant tenu une rédemption éternelle. Christ, ce que fait que Christ l'a fait une fois pour toutes. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas de répétition, il n'y a pas d'ajout. Quand on dit que quelque chose est fait une fois pour toutes, ça veut dire quoi? C'est fini. That's it. On n'a pas besoin d'ajouter rien parce que Christ est rentré lui-même et il a payé lui-même une fois pour toutes. La deuxième chose dans le même texte, c'est Hébreux 10, 12. Regardez ce que ça nous dit. Et si on ne connaît pas un petit peu comment le temple fonctionnait, ça peut paraître pas important, mais il y a quelque chose de très important qu'il nous dit. Lui, après avoir un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. S'est assis est très important. Pourquoi? Quand on rentrait dans le temple, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, il n'y avait pas de siège pour s'asseoir. Pourquoi? Parce que les sacrifices étaient perpétuels. On n'arrêtait jamais de faire des sacrifices à tous les jours. C'était sans cesse. Pourquoi Jésus s'est assis? Parce que la job est finie. C'est pour ça que Christ a pu s'asseoir. Parce que la job est terminée. Une fois pour toutes. Regardez au verset 11 qui dit, juste avant. Tandis que les sacrificateurs font chaque jour le service en offrant souvent les mêmes sacrifices qui peuvent jamais ôter le péché. Voyez-vous la différence? Le sacrificateur, il vient tous les jours et il offre toujours les mêmes sacrifices. Christ, il l'a fait une fois, puis Christ s'est assis. Et quand on s'assit, ça veut dire quoi? Si vous êtes au travail, vous travaillez debout, vous vous assisez, ça veut dire quoi? La job est finie. C'est fait. C'est fini. C'est complet. Le sacrifice de Christ est suffisant et c'est pour ça que Christ a pu s'asseoir à la droite de son Père. Et c'est pour ça que dit, c'est celui qui enlève le péché du monde. Pas celui qui cache le péché. Celui qui enlève le péché du monde. Hébreux 7, 24 nous dit quelque chose de bien important. Il dit, mais celui qui demeure éternellement possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Un sacerdoce qui ne se transfère pas. Donc, quand on vous dit que le pape est le représentant de Christ, vous pouvez le montrer, Hébreux 7, 24. C'est un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Pas transmissible, ça veut dire quoi? Ça ne se transfère pas. Christ est le seul souverain sacrificateur par excellence. Et quand il s'est assis, la job est finie. Et il n'y en a pas besoin d'autre pour continuer la job que Christ a fait. C'est fini. La troisième chose que l'auteur des Hébreux nous dit pour nous démontrer que l'œuvre de Christ est suffisante, regardez verset 10, 14. C'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Perfection et toujours, ce sont ce qu'on appelle des absolus. Si je vous dis que quelque chose est parfait et qu'il va être parfait pour toujours, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer?
Rien.
Rien. C'est ce qu'il nous dit. Le sacrifice de Christ était parfait, complet, et pour toujours. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'ajouter rien à l'œuvre de Christ. Nos œuvres n'ajoutent absolument rien. Et quand on veut ajouter aux œuvres de Christ, savez-vous ce qu'on fait? C'est un affront pour Dieu. C'est un affront pour Dieu. de dire, moi, je vais ajouter ce qui manque. Et pourtant, vous dire aux gens, ce Noël, on va parler de l'incarnation de Christ, du Fils de Dieu qui est venu sur la terre. N'oubliez pas, solus Christus, c'est seulement par Christ. Pourquoi? Parce que Christ est Dieu, et Christ a tout accompli, ce que personne d'autre ne pouvait accomplir. Et il l'accomplit à la perfection, et une fois pour toutes, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça que Jésus, sur la croix, a pu dire, tout est accompli. Et le rideau s'est déchiré du haut vers le bas pour nous donner accès à Dieu. Plus besoin d'avoir des rideaux qui nous séparent. Le péché a été enlevé une fois pour toutes. Imaginez-vous que Christ, son œuvre est suffisante. Mais est-ce que vous savez que Dieu a inventé la croix pour Christ? Est-ce que vous savez ça? Dans le psaume 22, il est écrit ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui se moquent de moi, tous ceux qui me voient se moquent de moi, il ouvre la bouche, secoue la tête, recommande-toi à l'Éternel, il te sauvera. Il te délivrera puisqu'il t'aime. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils m'ont percé les mains et les pieds, je pourrais compter tous mes os. De qui David parle dans le psaume 22? De Jésus, hein, c'est clair, hein, on voit les moqueurs autour de la croix, les soldats romains, les mots exacts que Jésus a dit. Mais saviez-vous que quand David a écrit ça, là, c'est 1000 ans avant la crucifixion n'existait même pas encore. Ça a été inventé 500 ans plus tard. Imaginez. Dieu a inventé la crucifixion pour punir son Fils, pour laver nos péchés. C'est fort, hein? Imaginez. Quand David a dit ceci, ils ont percé mes mains et mes pieds, David n'avait aucune idée de ce qu'il parlait. Parce que la crucifixion n'existait pas. C'était pas, ça n'existait pas. C'est 500 ans plus tard. Et c'est pour ça que dans Galates 3:13, ça dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Maudit quiconque est pendu au bois. C'était une malédiction. Et Dieu est allé jusque-là. Et nous, on va dire, ce que Christ a fait n'est pas suffisant. Il faut en rajouter. Non, c'est un affront à Dieu. C'est un affront à ce que Christ a fait. Isaïe 53 nous dit ceci, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Isaïe 43, 11 nous dit ceci, « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. » Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Le salut ne se trouve pas dans les sacrements de l'Église. Le salut se trouve en Christ, et en Christ seulement. Mais il faut faire attention, on va dire dans nos églises, non, non, nous, on ne croit pas dans le salut par les œuvres. Mais il faut faire attention de ne pas devenir légaliste. Il faut que nos œuvres soient tellement importantes pour qu'on puisse plaire à Dieu. Ça veut-tu dire de voir des gens, des fois, là, puis les œuvres sont tellement importantes pour eux, ils veulent faire tellement de bonnes choses, là. Il faut faire attention. Il faut servir Dieu. Il faut faire attention de ne pas devenir légaliste. Et c'est ce qui s'était passé avec l'Église de Galate. Et Paul leur dit, pourquoi vous voulez revenir sous la loi? Pourquoi vous voulez faire tellement de bonnes choses pour plaire à Dieu quand Christ a tout accompli ce qu'il y avait à être faite. Sinclair Ferguson a dit ceci sur le passage de Galates 5. Il dit, « Leur grande erreur a été de ne pas croire que la vertu et la droiture de Christ étaient assez pour une vie juste et voulaient défendre à partir de leur obéissance à la loi par leur justification. » Faisons attention de ne pas devenir des légalistes et de vouloir ajouter à ce que Christ a fait. Donc, est-ce qu'on veut se tenir avec les réformateurs et dire haut et fort, « Solus Christus, par Christ seulement. » Nous croyons et nous affirmons que c'est seulement par Christ qu'on peut être sauvé. Que le seul moyen de salut, c'est Christ, et que la seule chose qui aurait pu être utilisée pour nous sauver, c'est la croix. Christ est Dieu. Personne n'a la puissance de Christ. Personne n'a l'autorité de Christ. C'est pour ça que quand on a dit à Jésus, « Mais à qui t'es qu'on peut pardonner les péchés? Tu te prends-tu pour Dieu? » Oui. Exactement. Je suis Dieu. Exactement. Seul l'homme Dieu pouvait sauver nos âmes. Seule la croix pouvait être utilisée pour nous sauver. C'est pour ça que Jésus, sur la croix, avant, à la première prière de sacerdotale, il dit à son Père, « Si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. » Jésus dit, « Si c'est possible, là, éloigne de moi la croix. » Mais qu'est-ce que Jésus a dit après? Pas ma volonté, mais la tienne. Pourquoi? Parce que Christ savait qu'il était le seul qui pouvait accomplir ce que son Père lui demandait. Et que la croix était le seul moyen de payer les péchés. Il n'y en avait pas d'autre moyen. Et Jésus a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Donc, pourquoi solus Christus? À cause de l'exclusivité de qui est Christ et à cause de la suffisance de son œuvre, qui il est et ce qu'il a fait. Et j'espère qu'à Noël, vous allez vous rappeler solus Christus. Dieu parmi nous. C'est pas une petite affaire que Dieu descend du ciel puis qu'il devienne un homme qui marche pendant 33 ans, qui vient de mourir pour nos péchés. Imaginez-vous des fois, là, je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, des fois, là, je regarde le monde et je me dis, ça n'a pas de maudit bon sens. J'étais un pécheur comme eux autres. Imaginez tes yeux et tu marches entouré de pécheurs pendant 33 ans. Il faut que tes âmes en maudit. On trouve ça dur, des fois, nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, de marcher dans un monde qui est rebelle à Dieu. Imaginez-vous le Seigneur Jésus. Comment son cœur aurait dû être déchiré d'avoir le peuple que Dieu avait choisi, Israël, et qui vivait dans la religion, dans la tradition, et que tout ça était plus important que Dieu lui-même. Rappelez-vous à Noël, Solus Christus, le miracle de l'incarnation. Le miracle du Dieu de l'univers qui devient un homme pour payer nos péchés parce qu'il nous a tellement aimés. Et si ce n'était pas de Christ, chacun de nous autres aujourd'hui, on serait encore esclaves, pris dans nos péchés. Juste terminer par la prière. Oui, Père, comme je veux te dire merci parce que tu as donné ce que tu avais de meilleur. Père, même avant la fondation du monde, tu avais décidé que c'était Christ qui était pour venir. En accord avec Christ, pour racheter ton peuple, ceux que tu as appelés. Merci parce que Christ n'a pas refusé avant Il n'a pas refusé non plus juste avant la croix. Christ était conscient qu'il était le seul qui pouvait porter les péchés de chacun de ses enfants. Et merci parce que le sacrifice de Christ est suffisant. On n'a absolument rien à y ajouter. Et de nous, Seigneur, de ne pas faire l'affront d'ajouter à ce que Christ a fait. On va te dire à toi, c'est la gloire, Seigneur Jésus. Et de nous de vivre d'une manière digne de l'appel que tu nous as fait. Au nom de Christ, notre Sauveur. Amen.
Amen.